Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO.
L'amour est dans le prêt immobilier. Enfin, l'amour. Oui, ça a duré quelques années, les taux bas. Sauf que les taux remontent. Le désamour est dans le prêt, dans l'emprunt immobilier désormais. On va en parler avec Cécile Roquelaure, stratégiste et porte-parole d'Empruntis. Bonjour Cécile, ravie de vous retrouver.
Guillaume.
En pleine réforme des retraites d'ailleurs, comment l'attrait pour le crédit immobilier évolue-t-il? Que disent vos indicateurs sur l'évolution de la demande vis-à-vis du marché immobilier?
Alors la demande, elle est toujours très très bonne, hein, et effectivement c'est des chiffres qu'on a réservés, Guillaume, à votre intention. On a regardé comment les intentions d'achat évoluaient sur ce début d'année, et contre toute attente, les Français ont envie d'acheter de l'immobilier, toujours plus puisqu'ils sont 19% de plus à faire le choix de l'immobilier dans leur patrimoine pour ce début d'année par rapport à janvier 2022, alors même qu'on était déjà, vous le disiez, dans une dynamique très forte. Donc il n'y a pas de désamour pour l'immobilier, et on voit que c'est tous les types de projets qui en profitent, puisque les primo-accédants sont 19% de plus à vouloir acheter de l'immobilier, les secondos plus 30%, alors avec un petit changement dans la méthode, puisque en fait ils ont plutôt envie de vendre un peu plus qu'avant, avant d'acheter, certainement des craintes liées au prix de l'immobilier, et même pour l'investissement locatif, on est à plus 14% d'intention d'achat en ce début d'année.
Bon, les secondo-accédants, donc, qui sont 30% de plus qu'il y a un an, à la même période, à vouloir acheter de l'immobilier. Mmh. Les primo-accédants, 19% de plus aussi. Donc, on a une vraie résistance, voire un rebond de la demande pour l'immobilier. Comment l'explique-t-on alors que les taux sont toujours en train de progresser, que c'est une forme de tue-l'amour, que c'est ainsi que tout le monde nous l'explique? Comment explique-t-on ce désir d'immobilier qui va croissant?
En fait, ça reste un besoin fondamental. Hein. Se loger, c'est pas une option, c'est une obligation. Et l'immobilier, ça reste une valeur sûre dans le cœur des Français. On a toujours besoin de cette brique essentielle à la construction d'un patrimoine. Et vous le disiez, dans le cadre d'une réforme des retraites, dans la préparation de la dépendance plus tard, en fait, à chaque âge, l'immobilier est la pierre angulaire. Et même si les conditions de taux sont un peu moins favorables, puisqu'on a des taux qui sont quand même significativement remontés depuis janvier l'année dernière, malgré tout, ça reste une très bonne opportunité. Alors, le point qui peut créer de l'attention et de l'attente, c'est la variation sur les prix de l'immobilier. C'est vrai qu'en général, quand on a une hausse des taux, on s'attend à avoir une baisse des prix. Elle n'est pas encore là. Et c'est peut-être ce qui fait accélérer les acheteurs qui disent bah, en fait, mieux vaut avoir des taux un petit peu plus élevés, mais ils vont continuer à progresser. Ça sera peut-être un impact plus négatif sur le pouvoir d'achat que d'attendre une éventuelle baisse des prix.
Et alors, ceux dont le nombre à vouloir acheter, dont la proportion, la quantité en tout cas, progresse le moins, ceux qui voient leur appétit pour la pierre le moins progresser sur un an, ce sont les investisseurs locatifs, clairement, qui sont beaucoup moins nombreux que les autres à vouloir acheter de la pierre. Comment cela l'expliquez-vous, Cécile?
Alors, en fait, on est sur un monde en mouvement hein, sur l'immobilier locatif. On a quand même la fin du Pinel, l'arrivée du Pinel Plus avec de nouvelles contraintes pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Et puis, globalement, il faut se rappeler quand même qu'on fonctionne dans un nouveau terrain de jeu en matière de crédit avec le Haut Conseil de Stabilité Financière qui a donné de nouvelles normes qui sont en application ferme et définitive depuis le 1er janvier 2022, qui contraignent énormément les banques dans le financement de ce type de projet. Et puis, quand vous avez un marché où vous risquez d'avoir des baisses des prix, bah les banques et les organismes de caution sont beaucoup plus vigilants sur le type de biens qu'ils financent. Et puis enfin, quand on a un risque de récession économique ou des entreprises qui peuvent mettre la clé sous la porte, c'est un risque de location sur les locataires. Et donc ça aussi, ça a tendance à un peu moins favoriser. Pour autant, c'est vrai que là aussi, c'est une valeur sûre pour avoir des revenus complémentaires ou pour se libérer un capital pour le passage à la retraite.
Bon, l'investissement locatif, donc plus 14%, la demande des investisseurs pour l'investissement locatif, les secondo-accédants plus 30 et les primo-accédants, leur demande pour l'immobilier, leur appétit d'immobilier progresse sur un an de 19%. On a eu ce geste quand même de la Banque de France qui nous annonce sur le taux d'usure, allez, un pivot, un changement de pied, désormais le taux d'usure sera mensualisé, en tout cas au moins jusqu'à l'été. Est-ce que pour le coup, ça, c'est de nature à refluidifier le marché et redonner du pouvoir d'achat à un certain nombre de tous ceux dont vous nous parlez et qui souhaitent acquérir de la pierre?
Oui, c'est un élément très important qui était très attendu. Hein. C'est pas un chamboulement complet de la méthode. Vous le disiez, on est sur une mensualisation de l'actualisation du taux d'usure. On va conserver les trois derniers mois comme critère de référence. Mais pour autant, aujourd'hui, on a des banques qui ne peuvent pas augmenter les taux aussi rapidement que l'évolution de l'OAT, qui est la base de référence pour définir les taux de crédit. On est aujourd'hui à 2,6% quand on a des crédits qui sont en moyenne à 2,7% sur 20 ans. Et ça, c'est un problème pour les banques parce qu'elles n'arrivent pas à faire payer le juste prix du crédit. Le taux d'usure, c'est lui qui les contraint à ne pas augmenter leurs tarifs comme il conviendra au vu du coût des matières premières pour elles. Le taux d'usure en calculant mensuellement, effectivement, ça va libérer des marges de manœuvre aux banques. Alors certes, le crédit va augmenter par palier, mais là où il prenait 50 points de base pour un trimestre, eh bien, il le prendra peut-être par petites étapes. Et donc, ceux qui avaient un problème de taux d'usure vont pouvoir voir leur dossier se débloquer pour une grande partie d'entre eux par étapes là aussi. Donc, ça va fluidifier le marché. Et puis surtout, ça évitera ce qu'on craignait tous. C'est un goulot d'étranglement. On prévoyait qu'on ait un retour à la normale pour le mois de juillet. Ça voulait dire qu'à la période des vacances où on a un collaborateur sur deux dans le système financier qui travaille, on aurait eu un afflux de demandes pour tous les dossiers qui avaient besoin d'être débloqués et être remis en instruction. Et ça aurait créé un nouveau goulet d'étranglement, des allongements de durée de traitement. Et ça, ce n'était pas forcément de bon augure. Ce n'était pas le bon timing, en tout cas. Donc là, on va avoir des étapes qui vont avoir lieu jusqu'à l'été. Et c'est une excellente nouvelle.
Cécile Roquelaure pour Empruntis nous accompagner. Merci beaucoup, Cécile, de nous avoir accompagnés en direct donc sur BFM. Bon après-midi.